qui est important, c'est de réaliser que il vaut mieux y aller lentement,
Ouais.
mais sûrement, et persister surtout. C'est un thème qui revient tout le temps dans le livre, c'est ne pas revenir en arrière. Ça, c'est catastrophique, puisque il vaut mieux ne pas perdre de poids que de faire le yo-yo, puisque si on reprend, comme on l'a dit, on va avoir une composition corporelle encore plus basse.
Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Naturelle qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti! Accrochez bien vos ceintures. On va rentrer dans un sujet sensible qui touche ni plus ni moins le monde entier. Je parle d'un véritable fléau sanitaire, économique et social dont la médecine semble démunie alors que l'industrie pharmaceutique et du bien-être est prête à tout pour tirer profit de ce mal du siècle. Je parle bien sûr du surpoids et de l'obésité. En 2025, le Lancet estime qu'un humain sur 8 est touché par l'obésité. La proportion d'adultes obèses a presque triplé dans le monde et le nombre de personnes en surpoids a augmenté de 77% entre 1975 et 2016. Si cette tendance continue, en 2050, on arriverait à 60% des adultes et un tiers des enfants de la planète touchés. En plus de ça, chaque année, on estime que 5 millions de personnes meurent des conséquences du surpoids. Pour faire court, l'obésité est une maladie chronique marquée par une accumulation excessive de masse grasse qui altère les organes et favorise les inflammations. Elle est liée à 18 pathologies, dont le diabète, l'hypertension et certains cas de cancer, et parfois aggravés, comme dans les cas de Covid-19. Les populations de tous les continents sont touchées, même les populations insulaires, où l'alimentation traditionnelle a laissé place aux excès caloriques. Depuis les années 60, notre consommation calorique a explosé en effet. On consomme plus, mais surtout différemment. On mange extrêmement plus de lipides et de protéines animales et on mange beaucoup plus de produits ultra transformés. Par exemple, en Suède, leur consommation a augmenté de 142% depuis les années 60. En France, ils représentaient 36% des apports caloriques en 2017. Et donc, si nous mangeons plus, nous nous dépensons moins. Aux États-Unis, la quantité moyenne de calories brûlées par activité physique et hebdomadaire a baissé de 32%. Entre 65 et 2009, et en Chine, ça atteint 47%. Bref, l'obésité est multifactorielle. Outre nos habitudes, la génétique et la biologie, des perturbateurs endocriniens pourraient aussi jouer un rôle clé, sans oublier l'environnement psychologique et socio-économique, la précarité, le stress, l'accès aux produits frais, autant de facteurs qui favorisent le surpoids. Alors qu'avant, le surpoids était un privilège des riches, aujourd'hui, c'est l'inverse. Les populations les plus précaires consomment les aliments les plus caloriques puisqu'ils sont moins chers. Face à cette crise, pas beaucoup de solutions, des parcours de soins très limités ou peu accessibles avec un nombre restreint de spécialistes et beaucoup de rechutes de la patientèle. Des médicaments GLP-1 hors de prix comme l'Ozempic sont détournés de leur usage initial et mal prescrits. Dès l'arrêt du traitement, la prise de poids revient. En France, l'obésité n'est même pas reconnue comme une maladie à part entière, alors que l'OMS et l'UE la reconnaissent, ce qui limite la formation des professionnels de santé et aggrave la stigmatisation. Alors, si au lieu de chercher une nouvelle pilule, miracle et un régime à la mode, on n'investissait pas dans la prévention et l'adoption d'une approche globale intégrant l'alimentation, l'activité physique, la santé mentale, la justice sociale pour lutter contre cette épidémie silencieuse. Aujourd'hui, je reçois le docteur Jean-Paul Curtet pour nous parler de son nouveau livre « Mais d'où viennent ces kilos ?» qui vient de sortir récemment. Jean-Paul, bonjour.
Bonjour Noémie, bonjour à tous.
J'ai fait une introduction très très longue, mais ton CV l'est tout autant.
Qui faisait bien le tour de la question, hein, c'est ça. On a explosé le milliard d'obèses sur Terre il y a pratiquement 2 ans déjà. Et c'est un sujet que je ne voulais pas aborder parce que trop galvaudé, avec chaque année des nouvelles modes aberrantes. Et là, ça m'a créé une sorte d'électrochoc. Je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose. Et on a la chance, si vous voulez, d'arriver à un moment où on a de nouveaux outils, de nouvelles compréhensions de ce problème et de nouvelles façons de l'aborder, pas seulement en prévention, mais aussi évidemment en traitement.
Et toi, tu as fait aussi beaucoup de tours des questions de santé. En général, tu as créé la première consultation de nutrithérapie en France et tu en as même formé beaucoup de gens à ça. Tu as été membre de l'Académie des sciences de New York, de l'équipe éditoriale du journal of Nutritional and Environmental Medicine. Tu as écrit beaucoup d'ouvrages. Du coup, c'est le combientième?
On arrive à une trentaine d'ouvrages.
Ah oui. Et voilà. Et t'es aussi podcasteur comme moi, au final, sur Nutri Radio, si j'ai bien compris.
Je fais une chronique hebdomadaire. Oui, justement, l'année dernière, sur le surpoids, on a fait 31 émissions, et cette année, c'est sur l'inflammation. Mm-hmm. Mais on verra que les deux problèmes sont liés aussi.
Oui, oui, j'ai déjà pas mal de questions à ce propos. En tout cas, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Alors, j'ai ton livre avec moi, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais d'où viennent ces kilos? C'est marrant parce qu'il n'y a pas de secret. Tu réponds déjà à la question dans la quatrième de couverture, car tu dis que ça vient de l'alimentation ultra transformée, des carences, de l'inflammation, destructrice des muscles, du stress, manque de sommeil réparateur, perturbateurs endocriniens et autres polluants. Alors, c'était quoi le but de cet ouvrage?
Oui, alors, le but de cet ouvrage, d'abord, c'est de bien comprendre. Parce que si on ne comprend pas, on ne peut pas agir de manière réaliste. Et c'est le problème qu'on a eu avec ce surpoids et l'obésité, c'est qu'il y a eu, en fait, une incompréhension, d'abord. Et ensuite, même quand on a compris des choses, un manque de temps pour accompagner ces personnes. Mmh. Comme on le sait aujourd'hui, la Sécurité sociale en France rembourse la chirurgie bariatrique, qui est en fait un constat d'échec monumental. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas su accompagner les gens avec suffisamment d'intensité, de persistance, pour leur permettre de changer leur rapport à l'assiette, à leur corps, l'activité physique, le bon sommeil, enfin toute cette liste que je donne. L'éditeur n'était pas très content que je mette toute cette liste d'avance, parce qu'ils ont l'impression que je dévoile un petit peu... Mais bien sûr... Tout ça nécessite d'être bien compris, développé et tout. Donc, bon, moi, je préfère être franco, si vous voulez, dans le sens où il y a eu tellement d'arnaques dans ce domaine qu'on en a un peu marre de toutes ces histoires de régimes aberrants qui ne marchent pas, de chirurgie, en fait, mutilante, il faut le dire. Je l'appelle la chirurgie barbariatrique parce que, vraiment, faire un court-circuit de l'estomac pour... D'ailleurs, on verra qu'on a bien compris pourquoi ça marchait et que comment on pourrait faire autrement pour éviter ces mutilations, par exemple.
Mmh. Bah justement, tu parles du parcours médical et du parcours de soins avec la Sécurité sociale. Dans ton livre, il y a une préface d'un spécialiste de l'obésité et des troubles du comportement alimentaire qui dit « Il est temps de penser la prévention de manière plus systémique et plus loin, il faut repenser nos visions médicales en changeant de paradigme ». Ça veut dire quoi, du coup, concrètement?
Oui, c'est Arnaud Cocol, donc, qui, justement, a aussi même fait de la chirurgie bariatrique, mais il reconnaît bien que c'est une aberration. C'est du fait que, on a, par ailleurs, il a écrit un autre livre sur « Dépolluer votre graisse ». Il a bien compris qu'il y avait d'autres facteurs, et c'est pour ça qu'il a accepté de faire cette préface, alors que lui-même fait de la chirurgie bariatrique.
Mmh. Donc, il y a vraiment une prise de conscience, même du côté médical. Il y a une prise de conscience aussi chez les gens. Moi, je comprends très bien pourquoi l'obésité, c'est un problème pour mon organisme. Mais c'est plus dur de comprendre en quoi le surpoids, même s'il peut être minime, peut aussi être un problème pour soi-même, pas seulement sur l'esthétisme, mais sur la forme. Est-ce que c'est parce que la limite entre le surpoids et l'obésité est très fine qu'on ne sait pas trop et du coup, on se focus plus sur l'obésité plutôt que le surpoids?
Non, en fait, parce qu'on a un esprit un peu cartésien, on veut mettre des limites, des étiquettes. C'est normal, c'est pratique. Mais en fait, en effet, c'est un peu arbitraire de mettre la limite au-dessus de, voilà, d'un certain IMC, d'indice de masse corporelle. Le problème est le même, en fait. Le surpoids mène à l'obésité. Si on la laisse se développer, c'est une évidence. Et donc, c'est un peu artificiel. C'est une simple question d'intensité, de gravité, quoi. Mmh. Il y a même, après, on distingue l'obésité morbide. Mmh. Tout ça, c'est un peu, c'est une façon d'essayer de se repérer dans un monde, mais que c'est le même phénomène.
Je vois dans ce que j'ai pris comme note, tu disais qu'il y avait un système de mémoire. Est-ce que le fait qu'on soit en surpoids de manière à long terme, on va dire, du coup, c'est plus facile de passer à l'obésité juste après?
Oui, alors ce que tu évoques, c'est une découverte assez récente, hein, ça date que quelques mois seulement, que après l'amaigrissement réussi, plus ou moins réussi, d'une personne obèse ou en surpoids, les adipocytes, les cellules qui captent les tissus, les graisses, gardent la mémoire de ce surpoids, et donc en fait, c'est pas une guérison totale. Ce qui montre que ce qu'on savait en fait, hein, c'est que même après chirurgie bariatrique, même avec Ozempic ou tout ce qu'on veut, il faut, toutes les autres mesures sont indispensables pour assurer ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors qu'est-ce que c'est que l'épigénétique? Si vous voulez, bon, évidemment, on est ce qu'on est grâce à l'ADN, mais on a 23 000 gènes, mais ils s'expriment en fonction des situations. Hein, vous comprenez bien, par exemple, que les Scandinaves qui ont inventé en Europe les produits laitiers parce qu'ils étaient au froid, qu'ils n'avaient pas beaucoup de fruits et de légumes, ils ont mis 6 000 ans à évoluer sur le plan génétique pour avoir la lactase qui permet de digérer le lactose. Mmh. On ne peut pas attendre 6 000 ans, si vous voulez, face à un changement de situation. L'espèce humaine ne serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas un système d'adaptation beaucoup plus rapide. Et donc, en fait, on a un système d'adaptation immédiat qui s'appelle l'épigénétique, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on mange, ce qu'on pense, de la pollution, du stress, du manque de sommeil, de la sédentarité, etc. Nos gènes s'expriment différemment. Et c'est ça le sujet de mon livre, c'est d'expliquer comment rééduquer nos gènes à s'exprimer correctement.
On parle souvent du surpoids, là t'en as cité avec le diabète, le lien avec le diabète, le cholestérol, l'apnée du sommeil. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on arrive facilement à lier à l'obésité. Mais tu cites aussi les douleurs articulaires et le foie gras comme conséquence du surpoids. C'est quelque chose que j'ai jamais entendu parler.
Oui, alors en fait, il faut distinguer deux types de surpoids. La femme a forcément plus de cellules adipeuses, c'est un caractère sexuel secondaire. C'est pour ça qu'elle a plus de hanches et de cuisses, c'est parce que ça permet de faire une réserve calorique. Dans le passé, il y a eu beaucoup de famines, et si vous voulez, pour la survie de l'espèce, il fallait être capable, même dans des conditions difficiles, d'assurer le coût énergétique de la grossesse et de l'allaitement. Mmh. C'est pour ça que la femme a plus d'adipocytes, et ils sont œstrogénosensibles. C'est-à-dire les hormones sexuelles dominantes chez la femme, les œstrogènes, stimulent les cellules sous la ceinture pour les multiplier et les remplir de graisse au cas où. Voilà. Et ça, c'est normal, d'accord? Mais si on en a trop, ça crée un excès de masse grasse autour de la ceinture, des hanches, etc. On appelle ça le surpoids gynoïde. Le surpoids des femmes. Ce surpoids-là, il a comme complication ce que tu dis, c'est-à-dire l'usure des articulations. Il faut comprendre que quand on marche, on a de 4 à 7 fois le poids du corps sur la hanche et sur le genou, hein, puisqu'on lève une jambe qui va tout porter avant que l'autre prenne le relais. D'accord ? Et donc, ça fait une surcharge à la longue, hein, qui va grignoter les articulations, et c'est pour ça que c'est une cause d'arthrose. Bon. Mais d'autres complications, par exemple le retour veineux. Hein. Mmh. Si on a trop de graisse, ça empêche un bon retour veineux. Donc les gens qui ont déjà des jambes lourdes, des tendances aux œdèmes, les jambes qui enflent avec la chaleur, etc., vont être aggravés par ce problème. Enfin, disons que ce n'est pas mortel. D'accord. Encore que on puisse faire des phlébites, des embolies pulmonaires, c'est quand même pas si bénin que ça, mais enfin bon, disons que voilà, globalement. Par contre, si on accumule de la graisse au-dessus de la ceinture, alors il y a celle qu'on voit, hein, le bide, voilà. Et puis, mais à l'intérieur, il y a celle qu'on voit pas. C'est la graisse périviscérale, hein, qu'on peut par contre visualiser avec l'impédancemétrie ou d'autres systèmes. On fait comme pour les os. Pour voir si on n'a pas d'ostéoporose, on fait une densitométrie osseuse, on fait une densitométrie corps total et visualiser à 100 grammes près les excès de graisse, où est-ce qu'elle est située, mais bon, aussi la masse musculaire, la masse osseuse, la masse hydrique. Donc, ça donne une sorte de photo de la composition corporelle. Parce que le surpoids, contrairement à son nom, ce n'est pas le problème du poids, hein, c'est le problème d'un excès de masse grasse, comme tu l'as dit toi-même. Et alors, ce surpoids au-dessus de la ceinture a été découvert par un endocrinologue de Marseille, Jean Vague. C'était historique. Il a eu l'intuition que ça n'avait pas les mêmes complications que le surpoids en dessous de la ceinture. Mmh. Et donc, on appelle ça le surpoids androïde. masculin, parce que il est associé au diabète. Hein. Par exemple, la graisse du ventre, elle se défait plus rapidement. Ça fait des flux d'acide gras qui vont désensibiliser, par exemple, les récepteurs à l'insuline. Hein, c'est une des raisons pour lesquelles on fait du diabète, mais ça augmente les risques de syndrome métabolique, d'hypertension, d'infarctus, etc., etc. Donc, il y a deux types de surpoids. Malheureusement, on peut avoir les deux. C'est-à-dire, par exemple, après la ménopause, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, la femme a une chute d'œstrogène et donc les graisses du bas remontent sur le haut et ça peut déféminiser la silhouette. Et après la ménopause, le risque de surpoids androïde augmente chez la femme, mais aussi donc ses risques cardiovasculaires et le reste, le diabète qui va avec.
On a aussi l'une des causes du surpoids, qui est la sédentarité. Et on en parle dans l'épisode juste avant de la sédentarité et de son influence. Dans ton livre, tu donnes énormément de conseils pour intégrer du mouvement dans le quotidien. Et c'était hyper impressionnant comme c'était précis, cette liste. Je me suis demandé, vu qu'on est chez Sunday, qu'est-ce que tu fais, toi, le dimanche pour bouger, surtout quand on a la flemme?
Alors... je ne fais pas que le dimanche, c'est tous les jours. Je pense qu'on a besoin de bouger, on a beaucoup de muscles et ils sont faits pour bouger. Et si vous voulez, c'est vrai qu'on est content d'avoir le confort moderne. Hein. Par exemple, de ne pas avoir à chercher l'eau dehors comme il y a 100 ans, il n'y avait pas l'eau courante, ou d'aller chercher le bois ou le charbon pour se chauffer. Bon, aujourd'hui, les moyens de transport, les escalators, les ascenseurs, la mécanisation du travail a permis de ne pas être obligé d'être tout le temps en surcharge de travail physique. Mais en même temps, on a perdu, si vous voulez, l'obligation de bouger. Hein, donc, si vous voulez, ça devient un hobby, le sport, la salle de sport, le jogging, etc., mais qui reste indispensable. Par contre, il y a des gens, beaucoup de personnes, enfin, pas forcément une minorité, qui n'a pas forcément la fibre sportive. Mmh. C'est pour ça que j'ai développé ce concept dit de gym permanente. C'est pas nouveau dans ce livre, parce que j'en avais déjà parlé dans le livre sur Okinawa, où on vit le plus longtemps au monde en bonne santé. Ce concept de gym permanente, c'est de pouvoir intégrer dans le quotidien, à tout moment, des gestes qui permettent de contracter les muscles. Hein, par exemple, de prendre l'escalier ou de prendre l'ascenseur. Hein, c'est des choses assez simples. On est dans un transport assis, on peut faire ça quand on s'embête. Même dans un embouteillage, on peut serrer son volant, le tirer. On peut se balader avec des élastiques quand on a 5 minutes. C'est bien toutes les heures de se relaxer un peu en faisant quelques mouvements. On a beaucoup de travail sur écran dans nos sociétés, etc. Donc, c'est intéressant toutes les heures systématiquement de prendre 5 minutes pour se lever, bouger. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est ça. Je donne évidemment beaucoup de détails, comme tu l'as vu, pour pouvoir introduire ça dans son quotidien, parce que c'est vraiment au quotidien. Hein, le mouvement est aussi indispensable que la respiration. Et ça, malheureusement, dans nos sociétés, c'était un peu squeezé dans la facilité.
D'autant plus que tu as parlé d'une découverte aussi que le tissu adipeux brûle du muscle. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire sur les muscles en général.
C'est bien sûr très important. Je suis content que tu aies remarqué ça, parce que c'est vraiment un axe très important des découvertes récentes. C'est que une professeure de nutrition à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, Karine Clément, a découvert que le surpoids était inflammatoire. C'est-à-dire que si on a trop de graisse dans le tissu adipeux, notre système de défense anti-infectieuse, système immunitaire, a l'impression qu'il y a un corps étranger. Mmh. Et donc, le tissu adipeux est infiltré par des globules blancs. Ces globules blancs s'activent comme s'il y avait des virus ou des bactéries et sécrètent ce qu'on appelle des cytokines. Je pense que maintenant, suite au Covid, tout le monde sait ce que c'est que les cytokines, hein, puisque c'était la raison principale de décès des gens, c'est-à-dire qu'ils avaient une flambée inflammatoire avec un épaississement des bronches, l'air passait mal et on était obligé de les mettre sous respirateur. Donc, si vous voulez, ces globules blancs qui infiltrent le tissu adipeux, ils émettent des messagers pour mobiliser les autres globules blancs, comme si c'était une attaque infectieuse, d'accord ? Et les globules blancs, eux, ils vivent grâce à une énergie particulière. À la plupart de nos cellules, elles utilisent comme carburant le sucre, le glucose, d'accord ? C'est vraiment le carburant de référence, bien sûr. Mais les globules blancs, non. Ils utilisent une briquette qui forme nos protéines, qui s'appelle un acide aminé, qui s'appelle la glutamine. Mmh. Et donc, quand il y a une infection, pour que les globules blancs aient assez d'énergie pour faire des anticorps, pour se multiplier, pour nous défendre, d'accord ? C'est nos soldats qui nous défendent. Eh bien, ils vont détricoter le muscle grâce à ces cytokines qui s'appellent TNF-alpha. Quand je faisais mes études de médecine, on l'appelait la cachectine. Pourquoi ? Parce que ça fait maigrir, justement. Hein ? Les gens qui mouraient du sida, quand on n'avait pas les bons traitements, ils étaient cachectiques, ils étaient comme ils sortaient d'un camp de concentration. Mais c'est le cas aussi des cancéreux en phase terminale. Beaucoup de cancéreux ne meurent pas de leur cancer. Ils meurent d'épuisement, de cachexie. Ils sont, en fait, la tumeur détourne toute l'énergie à son profit, avec une autre chose qui existe aussi dans le surpoids qui s'appelle l'angiogénèse, c'est-à-dire qu'on crée de nouveaux vaisseaux pour détourner l'alimentation au profit de la tumeur, mais en fait, dans le surpoids, on a comme une tumeur. C'est en fait, cette angiogénèse va détourner l'alimentation au profit du tissu adipeux, ce qui va évidemment aggraver les choses. Et c'est important de comprendre tout ça, sinon on patauge, quoi. Et c'est un peu une des raisons pour lesquelles même les plus grands services d'obésologie du monde avaient plus de 80% d'échecs. Voilà. Et puis le problème, c'est que quand on reprend du poids, si vous voulez, on n'est plus le même, en fait. La personne faisait 95 kilos, elle refait 95 kilos, on dit rebelote. Non. Parce que c'est facile de perdre de la flotte, de perdre un peu de graisse, mais on perd aussi un peu de muscle, forcément, dans un régime restrictif, par exemple. Et quand on reprend plus facilement de l'eau et de la graisse, mais le muscle, c'est beaucoup plus difficile. Donc, en fait, la même personne a moins de muscle, c'est la masse qui dépense. Hein. Donc, pour répondre à la question, le muscle est fondamental parce que quand il se contracte, il brûle du sucre. D'accord. Donc, plus on a de muscles, plus on a une capacité de brûler les calories au lieu de les accumuler. Et mieux que ça, en fait, on multiplie les centrales énergétiques des petites organelles qu'on appelle mitochondries, hein, grâce à elles on fait tout ce qu'on fait. Quand on bouge, quand on pense, quand on se répare, tout ce qu'on fait bouffe de l'énergie. Et cette énergie, elle est fabriquée à partir de nos carburants, donc le glucose, des acides gras, la glutamine pour les globules blancs. On fait un petit moteur moléculaire, l'ATP, d'accord ? Et cette capacité de transformer les calories en énergie, qui est ce qui est bon pour nous, hein, l'énergie, c'est la vie, quoi, eh bien, ça se fait grâce à ces mitochondries. Quand on ne fait pas d'exercice, on a un nombre de mitochondries très faible. Hein, et plus, donc, on contracte ses muscles, plus on stimule la multiplication de ces centrales énergétiques, et plus on est capable de transformer les calories en énergie, au lieu de les transformer en graisse.
On les appelle des centrales électriques en allemand, ces mitochondries. Donc, tu as parlé là des muscles, à quel point c'est important. Et en plus, comme ça, on comprend un petit peu ce qu'il y a derrière, quel mécanisme. Tu parles aussi du bide et qu'il y a 5 facteurs qui font qu'on a du bide. Les graisses sous-cutanées, donc les bourrelets, j'imagine. Oui. La graisse périviscérale que tu as parlé tout à l'heure autour des intestins, la constipation, les ballonnements, le manque de tonicité de la paroi intestinale.
Abdominale.
Donc, si on prend en compte tout ce qu'il y a à faire pour les muscles et tout ce qu'il y a à faire pour le bide, c'est beaucoup, en fait. On commence par où ?
Oui, non, mais il n'y a aucune précipitation. Il y a eu un problème majeur avec les postures antérieures, c'est-à-dire qu'on fait des promesses. Hein. Vous allez perdre tant de kilos en tant de semaines. Mais ça, c'est déjà d'avance perdu. Parce que, si vous voulez, si on veut avoir une composition corporelle saine, agréable pour soi, d'abord, bon, parler d'esthétique, mais aussi saine, et qui associe une longévité augmentée à un moindre risque de toutes ces complications.
Caché,
parce que
ouais.
On a parlé du diabète, mais il y a l'hypertension, il y a le foie gras, l'accumulation de graisse dans le foie, il y a certains cancers parce qu'on fait des hormones sexuelles dans le tissu adipeux, Donc les gens plus gras, ils font plus de cancer du sein, plus de cancer de la prostate. Il y a un déclin cognitif augmenté. J'ai écrit aussi un livre sur Alzheimer. On a découvert que le surpoids est aussi un facteur d'Alzheimer. Tout ça, en fait, peut être prévenu par un meilleur équilibre entre ses muscles et le reste de la composition corporelle.
On a aussi, du coup, on parle du bide là, mais on a aussi les cuisses. Et j'avoue qu'on parle souvent dans la presse féminine de la cellulite, mais on confond parfois la graisse et la cellulite. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux cette différence ?
Oui. Alors, pour compléter la question précédente quand même, ouais. Ce qui est important, c'est de réaliser qu'il vaut mieux y aller lentement, ouais. Mais sûrement, et persister surtout. Hein. C'est un thème qui revient tout le temps dans le livre, c'est ne pas revenir en arrière. Ça, c'est catastrophique, puisque il vaut mieux ne pas perdre de poids que de faire le yo-yo, puisque si on reprend, comme on l'a dit, on va avoir une composition corporelle encore plus basse. Alors, la cellulite, c'est un autre problème, c'est un problème plus local, qui est souvent lié au syndrome prémenstruel, hein, c'est-à-dire au moment des règles, si la femme a trop d'œstrogènes ou ça va déprimer des nutriments comme le magnésium ou la vitamine B6, ça va créer une accumulation d'eau dans les œstrogènes, créer une vasodilatation, la baisse du magnésium réduit le refoulement du sodium des cellules, donc ça attire l'eau. C'est pour ça que la femme gonfle en deuxième partie de cycle. Ça peut être les seins, les hanches, etc. Ça perturbe l'humeur aussi, l'attirance pour le sucré, ça peut perturber le sommeil, etc. Ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Alors, bon, au début, c'est rien, c'est un peu d'inconfort physique et mental les premiers mois, mais au bout d'un certain temps, comme dans l'eau qui passe dans les tissus des cuisses, etc., il y a aussi des polluants, ça finit par créer une inflammation. Et là, ça va modifier le tissu. C'est ça qu'on va appeler la cellulite. C'est une inflammation qui va toucher le tissu conjonctif et qui peut s'aggraver de plus en plus, déformer carrément, faire la peau d'orange avec des creux. Ça peut se fibroser, devenir induré, même parfois douloureux. C'est donc plus un problème lié aux hormones.
Et c'est normal que ce soit durable ?
Alors, c'est toujours pareil. À partir du moment où on comprend ce qu'on appelle la physiopathologie moléculaire, hein, c'est-à-dire le pourquoi de la chose, c'est-à-dire que il y a un excès d'œstrogènes, on a des tas de moyens en nutrition de réduire les œstrogènes. Hein, par exemple, manger moins de viande, manger moins de graisses saturées, améliorer ses apports en magnésium, en vitamine B6 qui va désensibiliser aux œstrogènes. On a des phytoestrogènes de soja qui vont s'opposer à l'œstradiol. Donc on a plein de moyens pour rééquilibrer ce syndrome prémenstruel et éviter ce gonflement et ces perturbations.
Et les hommes ne sont pas concernés ?
Alors non, ils ne sont pas concernés par la cellulite dans le sens... Bon, ça, c'est, il y a des cas très très rares de problèmes génétiques hormonaux. Il y a des hommes qui en effet trop d'œstrogènes et justement dans le surpoids... Hein, par exemple, les grands buveurs de bière, avec le houblon qui a des capacités œstrogéniques, ils peuvent même faire une gynécomastie, avoir des hommes qui ont des seins à cause de ça. Bon, dans ce cas-là, éventuellement, enfin, c'est quand même assez marginal.
Ah bon, on en connaît tous des hommes qui ont un peu des seins. On a abordé aussi dans un autre épisode le microbiote et le lien entre le microbiote, l'inflammation et la dépression. Et il y a également une relation, en fait, entre le microbiote intestinal et le surpoids. Je pose la question parce que je sais que l'inflammation chronique, elle est impliquée dans de nombreuses pathologies. Et tu en as parlé, là, justement, un peu avant. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir une petite machinerie derrière avec le microbiote.
Tout à fait. Bon, ça fait partie des avancées de ces dernières décennies. On découvre qu'il y a une dimension de la flore digestive dans énormément de pathologies, sinon presque toutes. C'est lié au fait qu'on mange mal, en fait. C'est parce que les bactéries se nourrissent avant nous-mêmes. Quand tout ce qu'on mange passe par le tube digestif et on a 10 fois plus de bactéries que de cellules dans notre corps. 2 kilos de notre corps, ce sont des bactéries qui sont indispensables à notre métabolisme, qui fabriquent certaines vitamines, comme la vitamine K, un petit peu de B12, qui métabolisent des choses qu'on n'est pas capable de digérer, qui sécrètent des acides gras très importants pour ce qu'on appelle la vitesse de la vidange gastrique. Ça va réguler la vitesse du sucre dans le sang, l'appétit, l'humeur. En fait, on découvre avec les avancées que beaucoup de molécules qui sont sécrétées par ces bactéries peuvent remonter jusqu'au cerveau par le nerf vague, un nerf qui relie directement le tube digestif et le cerveau. Et donc, il y a bien une dimension dysbiose, hein, c'est-à-dire altération de cette flore microbienne dans le surpoids, qui va être aussi un autre facteur d'inflammation. Il y a plusieurs raisons pour cette inflammation. On a parlé des globules blancs qui étaient dans le tissu adipeux, mais il y a aussi, ça vient du tube digestif, ça vient de la pollution, ça vient de la qualité de l'alimentation qui peut être inflammatoire ou anti-inflammatoire. Là, justement, j'explique bien comment avoir une alimentation anti-inflammatoire. Et tout ça joue un rôle très important. Qui est associé aussi à plein d'autres problèmes. Par exemple, lorsqu'il y a de l'inflammation dans le tube digestif parce qu'on n'a pas une bonne flore, ça dilate les pores et ça laisse passer des aliments non digérés, ça va créer des intolérances alimentaires. Il y a forcément des bactéries partout, donc même cuites et tuées. Si vous voulez, les morceaux de bactéries, ça donne des substances hyper-inflammatoires qu'on appelle lipopolysaccharides, LPS, qui passent dans le sang. On peut les visualiser sur des analyses. Les gens mangent une brochette de poulet, on voit un pic comme ça d'inflammation plusieurs heures après. Et donc, tout ça aggrave le problème. Donc, il est très important d'avoir une bonne flore. Et la bonne façon d'avoir une bonne flore... Bon, les probiotiques peuvent aider un petit coup au départ, mais si vous voulez, c'est à long terme, c'est de bien nourrir ses bactéries, d'être un bon jardinier de sa flore. Et ça repose sur les fibres, manger beaucoup de végétaux, donc par exemple des légumineuses, des céréales complètes, des amandes, des noix, des noisettes, les oléagineux, toutes ces fibres, c'est un aliment favori des bactéries. Nous, on ne les digère pas les fibres, mais les bactéries, c'est leur nourriture principale. Ensuite, il faut éviter les produits ultra transformés que tu as évoqués, bien sûr, hein, qui sont, par exemple, les additifs de ces produits altèrent la flore. Pour vendre et rendre addictifs les aliments, on met du sucre et du sel, d'accord ? Ce sucre et ce sel altèrent la flore. Bon, tout ça s'accumule, ce qui fait que malheureusement, la majeure partie de la population est dans cet état de dysbiose, et on comprend pourquoi. Maintenant, il y a plus en Europe de gens en surpoids que de gens pas en surpoids, normaux pondéraux.
Et forcément, du coup, tous les gens qui sont en surpoids ont probablement une dysbiose.
Et malheureusement, les gens qui ne sont pas en surpoids aussi. Donc, c'est vraiment général, c'est extrêmement répandu, c'est quasiment la règle. Donc, c'est un des premiers devoirs du thérapeute, du nutrithérapeute, c'est de restaurer la flore pour qu'elle ne soit pas inflammatoire.
Je parle sur un autre sujet complètement. Oui. Tu parles d'endorphiniser et de se faire sa propre campagne de pub pour retrouver du plaisir à prendre soin de soi. Mais quand on est bloqué dans un cercle vicieux, on parlait justement de dépression, de mal se nourrir, etc., c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire.
Absolument. Et c'est pour ça que tu as peut-être vu que dans la première des 10 mesures majeures que je propose dans ce livre, c'est reprendre le volant. Parce que, il y a une époque, je me rappelle quand j'ai commencé la médecine, en fait, la nutrition n'existait pas. Enfin, c'est-à-dire, il n'y avait pas de nutritionniste. Il y avait des endocrino-diabétologues qui faisaient la nutrition. Bon, ben, c'est devenu une branche indépendante après. Et donc, ils sortaient une liste de conseils à faire. Mais si tu veux, quand on a ces problèmes de comportement, d'addiction, d'habitude mauvaise, eh bien, le comportement alimentaire n'est pas, en fait, un comportement majoritairement conscient. Ce n'est pas un comportement intellectuel. Ce n'est pas l'information qui va dicter la conduite face à l'assiette ou les choix alimentaires. C'est l'inconscient.
Aussi.
Oui. Alors, d'abord... Il y a ce qu'on appelle le cerveau reptilien. L'alimentation, c'est instinctif. Pour survivre, il faut manger. Donc c'est un instinct, c'est automatique, d'accord ? On a de l'appétit, comme, c'est dans le centre, de la base du cerveau, on appelle ça le locus cœlius, le lieu bleu. Il y a cet instinct de survie qui comprend avoir un territoire pour garantir sa sécurité, pour garantir son approvisionnement alimentaire et pouvoir se reproduire en sécurité. Voilà, c'est ça le territoire. Et donc... cet instinct reptilien est le premier facteur de comportement alimentaire. Voilà. C'est un comportement, je dirais, de prédation, quasiment. Mmh. D'accord ? Mais ensuite, on a une grosse dimension affective. Hein, c'est-à-dire, si ta mère fait du poulet frit, bah, t'aimes le poulet frit parce que t'as eu du poulet frit. Et quand tu répètes quelque chose, tu sécrètes, tu stimules le circuit de la récompense. Mmh. Hein, c'est le circuit de la récompense, les industriels connaissent bien puisqu'ils jouent à fond sur cette carte, ça fait sécréter la dopamine, qui est un neurotransmetteur du plaisir. On dit, ah, ça c'est bon, ça c'est, c'est intéressant, ça c'est coloration affective, émotionnelle, c'est important, c'est bon, c'est intéressant, je vais revenir. Et la dopamine fait sécréter des opioïdes comme la morphine ou l'héroïne, qui sont, on appelle des endorphines, qui sont indispensables à notre bien-être. C'était l'objet d'un prix Nobel, Roger Guillemin, français, qui a malheureusement pas trouvé les moyens de faire ses recherches en France et qui est parti aux États-Unis. Mais bon, donc ces endorphines sont très importantes, mais c'est comme des opioïdes endogènes, d'accord ? Donc en fait, ce qui veut dire que quand on répète quelque chose, on sécrète, on stimule le circuit de la récompense, ça veut dire qu'on est accro-héroïnomane à nos habitudes, mais qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mmh. D'accord ? C'est pour ça que je donne des techniques de désintoxication. Hein. Par exemple, le café contient des antioxydants. Bon, très bien. On peut même trouver des études qui montrent que ça réduit le diabète, etc. Mais le problème, c'est que dans la caféine, on inhibe l'absorption des vitamines B, on augmente l'excrétion urinaire du magnésium, on augmente le risque de glaucome, ça augmente l'histamine, qui est un inflammatoire, l'acidité gastrique. Il y a un mauvais rapport et bénéfice-risque. Mmh. Donc, on considère que le café est une boisson plaisir, mais pas santé. Mmh. Alors, on va distinguer l'aliment plaisir qu'on va déguster de temps en temps, et l'aliment santé qu'on peut déguster tous les jours en quantité, d'accord ? Donc on préfère au café le thé, et même encore le thé vert qui est plus riche en polyphénols, puisque les polyphénols sont très anti-inflammatoires. Mais alors, si quelqu'un qui adore le café, on lui dit « il vaut mieux boire du thé vert », tu peux toujours courir, c'est pas du tout le même goût, c'est pas du tout la même culture, ils vont faire la grimace, ils vont jamais le faire, d'accord ? Donc il faut une technique pour endorphiniser, ce terme que j'utilise, et ça, c'est les industriels savent faire. Hein. Ça vient d'un homme qui s'appelle Bernays, qui était double neveu de Freud, qui a eu la mauvaise idée de détourner les découvertes sur l'inconscient de son double oncle pour dire aux industriels, par exemple, pour vendre du tabac, ben, il ne faut pas faire de l'information, il faut jouer sur l'inconscient. Donc, il a créé ces techniques de publicité, de marketing. C'est à cause de lui qu'on est dans ce bazar, en fait. C'est parce qu'il a orienté la vente, l'industrie, le marketing sur l'inconscient. Hein, par exemple, pour vendre une glace, le Magnum, la propalcité, on montre une femme qui est en train de faire une sorte de fellation avec sa glace, des connotations sexuelles. Et c'est l'inconscient qui va motiver les gens. Donc, en fait, on peut détourner à son profit cette technique et faire sa propre campagne de pub. Alors, comment ça se passe ? Eh ben, on préconise d'abord à la personne à qui on veut promouvoir le thé vert d'aller dans des boutiques où il y a des centaines de thé verts différents, de goûter, de discuter avec la vendeuse. Il fait ça, son expérience, il compare les goûts, etc. Comment ça ? Voilà, il y a une petite histoire personnelle de relation avec le thé, Après, pour stimuler le circuit de la récompense face au thé vert, on met par exemple sa photo de meilleures vacances à côté de son thé vert, on se met un jingle. Alors, par exemple, t'as le frisson quand t'entends l'Ave Maria de Schubert ou Yellow Submarine des Beatles, on s'en fiche. Bon, du moment que t'as le frisson, c'est le jingle. Donc, le jingle, c'est ça la pub, on va répéter la même musique les mêmes, vous voyez, X fois, abribus, abribus, télé, etc. Mmh. Et au bout de 3 semaines, c'est imparable, t'as endorphinisé le thé vert. Mmh. D'accord ?
Donc, il faut être voilà, son bah, propre...
Par contre, voilà, t'es ton propre promoteur. Voilà.
Ouais.
T'apprends à te manipuler toi-même.
Oui.
Ça fait partie des techniques de reprendre le volant. On ne dit pas... L'industrie joue sur l'addiction. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont des labos où, pendant des mois, ils testent scientifiquement, ils vont jusqu'à faire des scanners du cerveau pour voir comment t'active ton circuit de la récompense. Donc, par exemple, ils appellent ça l'entonnoir. Tu pars sur 10 000 idées, t'en retiens 1 000... T'en testes 100 avec des variations d'ingrédients et tu vois qu'à telle dose de sucre, à telle dose de sel, à telle dose d'additif, tu as la plus forte consommation auprès des gens testés. Et ça va être, ils appellent ça l'indice de félicité.
Mmh.
Voilà. Bon, tout ça, c'est voilà, les techniques du marketing pour te rendre accro à leurs produits. Et on a montré... que grâce à Carlos Montero, qui a débusqué l'histoire des... un chercheur brésilien qui a débusqué l'histoire des aliments ultra-transformés, il a dit on s'insiste trop sur l'aspect qualitatif de l'alimentation, mais pas sur les process industriels. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça crée des aliments hyper appétissants, évidemment. Ça a été fait pour ça. D'accord ? Et si tu prends, ils ont comparé dans une étude exactement le même contenu d'aliments d'une personne qui mange des produits frais normaux
mm-hmm. hein,
et d'une personne exactement les mêmes ingrédients, mais ultra transformés. Eh bien, les gens qui mangent ultra transformés consomment environ 500 calories de plus par jour. C'est hallucinant, l'efficacité. Mm. Donc, on comprend pourquoi les gens ont enflé comme ça.
Mm. Et du coup, il faut vraiment se battre sur ce qu'on nous dit et contre ça, cette addiction.
Chacun est libre. Donc, si tu veux, chacun a sa vie, son corps, il fait ce qu'il veut. Moi, ce que je fais, je donne de l'information.
Mm.
Après, voilà, il y a ceux qui achètent et ceux qui n'achètent pas. Bon, on ne peut pas vivre à la place des autres.
Mm.
Donc, moi, je donne des outils. Après, mais... donc, on peut en fait se faire plaisir avec des bonnes choses. À partir du moment où on répète la même bonne habitude, plus on va l'endorphiniser et plus ça sera naturel.
Mmh. On a toujours en tête aussi que le surpoids, c'est une question de volonté.
Oui.
Mais là, en l'occurrence, c'est...
Ben justement, c'est une aberration parce que, d'abord, c'est stigmatiser les gens,
oui.
Ce qui ne va pas aider puisque déjà, il y a souvent un problème d'inconfort mental. Beaucoup de gens se remplissent parce qu'ils sont vides. Je veux dire, c'est triste à dire, mais quand tu es passionné par quelque chose, que ce soit l'art, le sport, n'importe quoi, je veux dire, tu ne vas pas compenser sur la nourriture. La nourriture est souvent un psychotrope compensateur de frustration. Donc, quand tu es stressé, quand tu es mal, tu ouvres le frigo, tu commences le paquet de biscuits, tu le finis, etc. On utilise la bouffe comme détendeur. Hein. Par exemple, bon, la journée, le matin, tu n'as pas tellement de temps de petit déjeuner. Bon, le déjeuner, on travaille, donc on a 20 minutes sur le pouce debout dans un bruit terrible. Donc, le soir, tu es crevé, tu en as marre. Tu vas te détendre, tu t'assieds, tu te remplis. En plus, il y a la télé avec les mauvaises nouvelles. Je veux dire, tu ne dégustes pas ce qu'il y a dans l'assiette et tu te remplis sans ressentir la satiété. Hein, ça, c'est un piège évidemment considérable. Et ce qui fait que, moi j'appelle ça de la prédation déplacée. Hein, évidemment, c'est plus facile de bouffer, de boire de l'alcool ou de fumer une cigarette que de réussir dans sa vie, de créer une œuvre, d'avoir un amour durable. C'est beaucoup plus compliqué. Hein.
Mmh.
Donc, toutes ces frustrations de la vie,
temps, oui.
Voilà, c'est beaucoup plus facile de se venger sur cette prédation déplacée, faire des achats compulsifs, mais la bouffe, c'est le premier, quoi. C'est évident.
Du coup, il faut s'entraîner, il faut s'éduquer, il faut s'informer.
Alors, je dirais pas il faut, parce que faut, c'est à faire appel au cortex, tu vois. Et le cortex, on a dit, ça marche pas.
Mmh.
Bah, c'est important d'informer, mais si tu veux qu'il y ait une cohérence entre ce que tu sais, ce que tu veux faire, toi, et le cerveau du dessous, qui, lui, il a il a un poids considérable, mais inconscient, justement. C'est important d'harmoniser tout ça. Et donc, on va plus... une des clés du succès de la méthode que je pense que je propose, c'est le fait qu'on va sentir très vite la différence. Hein. Par exemple, un des premiers conseils qu'on va donner, c'est de ne pas manger de protéines animales au dîner. Pourquoi ? Parce que les protéines animales, c'est ce qu'il y a de plus inflammatoire dans l'assiette. Donc, le soir... Normalement, on va dormir. Après, on n'a pas besoin de toute cette énergie. Or, tu n'as pas eu le temps de manger tellement à midi ni le matin. Donc, le soir, tu vas te détendre. Tu vas prendre 1000 calories ou même plus en un coup, plus de la moitié de tes calories au dîner, au moment où tu n'as plus besoin d'énergie. D'accord ? Donc, ça sature tous les circuits. On a parlé des petites mitochondries. Si elles voient arriver 1000 calories ou plus d'un coup, comment veux-tu qu'elles gèrent ? Elles sont saturées. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Ça fait augmenter le sucre et les graisses dans le sang. Le foie, lui, à partir des sucres et des graisses, il fait ce qu'on appelle des triglycérides. Et c'est ces graisses qui vont être incorporées par l'insuline, une hormone, dans le tissu adipeux. D'accord ? Donc, par ailleurs, on a démontré par des tas d'études que ce que tu manges le soir, tu en profites beaucoup plus au niveau de la graisse que ce que tu manges le matin. Ce n'est pas le même métabolisme. D'accord ? Et pire si tu manges la nuit. Moi, j'étais comme tous les médecins, fais des gardes. Si tu veux, la nuit, tu es crevé, tu me bouffes. Mais ça, c'est malheureusement, ça a un impact métabolique très, très mauvais. On a même montré que les gens qui mangent tôt profitent moins des calories que les gens qui mangent tard. Mais c'est culturel. Hein, par exemple, en Allemagne, où on est, là, je sais que les gens mangent tôt. Ils mangent 17, 18 heures, voilà, etc. En Espagne, 22 heures, 23 heures. Ouais. Hein, c'est pas la même culture. C'est culturel. Donc, malheureusement, ça n'a pas un impact génial sur la qualité du sommeil, déjà. Donc, première mesure, si vous ne mangez pas de protéines animales au dîner, vous allez dormir beaucoup mieux et au bout à moins d'une semaine, vous allez sentir la différence. Le matin, on se réveille beaucoup plus tonique, etc. Et c'est sur cette base de ressentiment profitable, bénéfique, on se sent mieux, qu'on va persister. Sinon, rien ne marche. Il faut bien comprendre que tout ce qui est cure, tout ce qui est régime, ne peut pas marcher parce que ce qui compte, c'est une modification définitive, sans retour, un autre rapport à l'assiette, à son corps, à l'activité, au sommeil, etc. Et tout ça se fait comme ça progressivement. Et donc, il faut qu'on ressente le bénéfice. D'accord ? Et tout est fondé là-dessus, c'est faire des choses qui on ressent le bénéfice, et donc on va persister grâce à ça.
Tu as parlé justement des protéines, là, c'est quelque chose qu'on doit apprendre aussi, tu dis dans ton livre que l'éducation nutritionnelle, elle commence in utero. Oui. Et en fait, il y a aussi le facteur environnement familial qui joue beaucoup. Est-ce qu'il faut... aussi faire une barrière à ce qu'on a eu dans son enfance et ce qu'on a l'habitude d'avoir fait.
Oui, alors là, c'est difficile parce qu'on ne sait pas toujours ce que mangeait sa mère, etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est dans le ventre de sa mère, ce qu'elle mange, notre mère, il y a des parties de molécules qui passent dans le liquide dans lequel le bébé nage. Il flotte. Le liquide amniotique. Et en fait, à partir d'un certain moment, le fœtus déglutit, il avale ce liquide amniotique, il fait pipi dedans, etc. Enfin bon. Donc, il y a des échanges moléculaires et c'est pour ça que je dis l'éducation nutritionnelle commence dans le ventre de sa mère parce qu'en fait, on peut devenir déjà addict parce qu'on a pré-endorphinisé, en quelque sorte, les aliments qu'a mangé sa mère dans le ventre de sa mère. Mais toutes ces choses sont modifiables. C'est pas du tout une fatalité. On peut, donc, comme je l'ai dit, par exemple, par la technique de ma propre campagne de pub, mais changer ses habitudes, on a fort heureusement ensuite le libre arbitre de changer d'habitude et de modifier les choses qui nous font plaisir et qu'on répète chaque jour.
Je reste encore une fois sur un autre facteur qui est la pollution environnante. Tu parles un peu quand même, au final, des micro-ondes, des poissons grands prédateurs trop toxiques. Tu parles des perturbateurs endocriniens qui sont des facteurs de surpoids et de diabète. Et ça, on n'a pas vraiment de contrôle dessus.
Alors, Si, on peut avoir un certain contrôle. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que ça aussi, ça fait partie des nouveautés. Hein, c'est-à-dire qu'on ne se rendait pas compte que la pollution était aussi un facteur de surpoids. Donc, de nouveau, ça répond aussi d'une autre façon à ta question de tout à l'heure. Est-ce que faut culpabiliser les gens? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de volonté? Mais bon, il y a beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas directement ou dont on n'est pas conscient, surtout. Hein. Les gens ne savent pas que les perturbateurs endocriniens, par exemple, d'où ils viennent? Eh bien, par exemple, principalement des emballages plastiques. D'accord? Donc, les emballages plastiques, il y en a partout. Bon, ils flottent dans l'air, on l'inspire. Bon, ça, c'est déjà pas très facile à éviter, mais au moins, on peut en éviter certains. Par exemple, si on achète de l'huile en bouteille plastique, les plastifiants qui sont solubles dans les graisses, ils migrent dans la graisse. Et là, c'est une source majeure. Ça devrait être totalement interdit. Là, la réglementation est en retard. Tout ce qui est gras ne peut pas être dans du plastique. Les huiles, les sauces, les margarines, les yaourts, etc. Ça fait beaucoup. Donc, le problème, c'est que maintenant, on a démontré que c'est un des 10 premiers facteurs de surpoids et de diabète. Mmh. Donc, avec une bonne information, on peut réduire fortement ces apports en perturbateurs endocriniens. Une autre source, c'est le plastique qui reste à la lumière. Hein, regardez chez vous, il y a plein de plastique. S'il y a des UV, oui, voilà, ça va décomposer le plastique. Ça libère, par exemple, des phtalates qui passent dans l'air, on les inhale, ça passe dans le sang et ça va partout. On n'en est pas conscient. Si on ne le dit pas. Hein. Moi, je préconise qu'on apprenne tout ça à l'école. À l'école primaire, avant l'adolescence. L'adolescence, c'est trop tard, parce que c'est normal, l'adolescence, c'est une période de crise, on veut se distinguer, on cherche son identité, puis la prise de risque augmente, c'est pas le moment. L'adolescent, c'est normal, il fait un peu toutes les bêtises. Donc, il faut le préparer avant, chez les enfants plus petits, à l'école primaire, à bien manger, aux gestes de base pour sa santé, pourquoi pas fumer, un bagage, quoi, qui permette, même s'ils vont faire des bêtises à l'adolescence, ils reviendront ensuite, ils ont un bagage, ils ont une base, une fondation solide. Alors, on ne l'a pas. Hein. Alors, évidemment que l'école doit apprendre à compter, à lire, etc., mais je pense que la santé, c'est absolument fondamental. Hein. On l'a vu avec la Covid, mais il y a bien d'autres raisons. Si vous voulez, ça coûte beaucoup trop cher à la société. Comme j'ai dit, j'ai écrit un livre sur Alzheimer. Maintenant, on a près d'1 million d'Alzheimer en France, avec 3 personnes aidantes en moyenne par Alzheimer. Ça fait 4 millions de personnes concernées. On a de plus en plus de populations vieillissantes, de plus en plus de jeunes sans travail. On va où, là? Avec déjà 3 000 milliards de dettes en France, je veux dire, ça va devenir totalement intenable. Donc, c'est une question de survie aujourd'hui. Je pense qu'il faut absolument mettre la prévention santé, une éducation à la santé et à l'alimentation saine dès l'enfance.
On va pas pouvoir faire d'éducation là tout de suite dans le podcast, mais peut-être juste une seule question. C'est quoi les pires aliments pour le poids et la santé?
Alors, en fait, la liste est longue, mais je pourrais mettre presque en tête le sel. Parce que c'est une autre découverte dont bénéficie le livre, là, toute récente. Pourquoi? Parce que, avec la chirurgie bariatrique là, qui explose, on s'est aperçu d'un truc assez étonnant, c'est que, suite à la chirurgie bariatrique, il y a des diabétiques qui sont guéris. Alors, on dit, tiens, formidable, etc. Donc, il y a un professeur de nutrition au CHU de Lille, le professeur Patou, qui, ça l'a interpellé. Il s'est dit, il faut comprendre ce qui se passe. Donc, il a reproduit chez des animaux de labo, évidemment, ces techniques de bypass, de sleeve, d'estomac. Et il s'est aperçu qu'en fait, le mécanisme, c'est qu'on sépare le sel du sucre. Et on savait, en fait, depuis les années 60, mais c'était resté comme ça, une notion publiée, personne n'avait fait vraiment attention, que le glucose n'est absorbé que en présence de sel. Alors, je ne sais pas si tu te rends compte de l'impact, c'est-à-dire que l'industrie agroalimentaire qui rend addict les aliments en associant sel et sucre...
Mais tout le temps.
Alors là, c'est la bombe, hein, c'est le cocktail qui tue, voilà, plus les additifs qui vont perturber la flore, etc. Tu vois un peu le problème. Donc, je dirais le sel en tête, parce que jusqu'à présent, le sel, on parlait sel et hypertension, sel et accident vasculaire cérébral, bien sûr, ça reste vrai. Mais il faut savoir que le sel est aussi un facteur de cancer de l'estomac, une découverte des Japonais. Le sel est pro-inflammatoire, Quoi, un truc qui s'ajoute, hein, ça c'était pas connu. Ensuite, que le sel est indispensable à l'absorption du sucre. Donc si tu réduis le sel, tu vois un peu, c'est un instrument extrêmement puissant.
Et tu es aussi défenseur de manger moins de viande. D'ailleurs, c'est le titre d'un de tes livres. Tu expliques que la surconsommation de viande favorise le surpoids.
Moi-même, j'étais surpris de voir que, en fait, dans les études, on découvre que les mangeurs de viande gagnent plus de poids que en fonction de la quantité de viande qui était. Donc, ça m'a surpris. Mmh. Et même encore plus surpris, c'est que c'est le poulet qui a l'effet le plus négatif, plus que le bœuf. Hein, parce que jusqu'à présent, on a pensé que la viande rouge était plus malsaine que la viande blanche. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui encore, la quasi-totalité des agences de santé publique font la promotion de la viande blanche, qui en plus est moins chère. La consommation de volaille explose avec l'inflation et celle de bœuf diminue. Malheureusement, c'est très négatif comme évolution. J'explique pourquoi. C'est parce que dans le poulet, il y a énormément plus de microbes que dans le bœuf ou dans d'autres viandes. Les poulets sont élevés en batterie, c'est quasiment la totalité des poulets. Ils ne voient pas l'air ni l'herbe, c'est des bêtes malades qu'on mange, qui reçoivent des flopées d'antibiotiques dans une croissance accélérée. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos d'élevage de
volailles.
Ouais, il vaut mieux pas voir parce qu'il y en a des morts par terre, et ils tiennent pas debout. C'est horrible. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils mangent. C'est vraiment effarant. Mmh. Et le problème, c'est que dans les antibiotiques, d'abord, ce n'est pas très bon parce que ça va justement favoriser la dysbiose. Mais ensuite, parce qu'il y a des virus, dont un virus qui s'appelle adénovirus, qui s'avère être un facteur d'obésité. C'est un obésogène. Okay? Mmh. Donc, c'est ce qui fait que le poulet est beaucoup plus inflammatoire que le bœuf. Hein, parce qu'on a dit que même tué, ces bactéries, elles libèrent des morceaux, des lipopolysaccharides extrêmement inflammatoires. Hein, donc, la viande rouge, par contre, a un intérêt nutritionnel pour les personnes qui manquent de fer. Hein, pour les protéines, on n'en a absolument pas besoin. Il faut comprendre que des civilisations, pendant des millénaires, ont vécu sur l'association légumineuse-céréales. Hein, par exemple, couscous, pois chiche en Afrique du Nord, maïs, galette de maïs, haricots rouges en Amérique, riz, soja en Asie. La viande était une sorte d'aliment festif ou occasionnel. Seuls les riches, les aristocrates, les rois mangeaient beaucoup de viande. D'ailleurs, ils avaient la goutte à cause de ça, etc. Bon.
Donc, on n'en a pas besoin dans le quotidien, c'est ça que...
Alors, ce que je veux dire, c'est que pour les protéines, on n'a absolument pas besoin de la viande. Absolument pas. Ni œufs, en fait, ni poisson, ni viande, parce que l'association céréales complètes légumineuses suffit. D'accord. Par contre, pour certains minéraux, comme le fer, le zinc, ou pour la B12, bien sûr, on est au courant, les végétaux ne suffisent pas. Il n'y a pas de B12 dans les végétaux, bon, tous les végétariens savent ça. Et puis le zinc est très très mal absorbé, et le fer aussi. Hein, ce qui fait que pour le fer, c'est limite. Donc les personnes qui ont besoin de beaucoup de fer, les femmes enceintes par exemple, les enfants en forte croissance, un l'ado qui va prendre 15 cm dans l'année, la femme qui a des règles trop abondantes et qui manque une ferritine trop basse, le meilleur fer, c'est la viande rouge, justement. Mais manger à midi, pas le soir, pour éviter cet effet négatif sur la nuit, hein, parce que c'est la nuit qu'on se répare, c'est la nuit qu'on fait du muscle, parce que le jour, on utilise notre énergie pour bouger, pour penser, la nuit, non. Elle est libre. Donc l'énergie est disponible pour toutes les opérations de réparation, réparation de l'ADN, réparation des protéines endommagées, multiplication des centrales énergétiques, les mitochondries, l'immunité, la synthèse des muscles dont on a besoin pour le surpoids, c'est la masse qui dépense. Tout ça se fait la nuit. Hein, la croissance des enfants se fait la nuit. Hein, c'est après l'endormissement qu'on a l'hormone de croissance qui est sécrétée, parce que c'est là que l'énergie est disponible. D'accord ? Donc c'est très important d'avoir ce sommeil réparateur. Le manque de sommeil est une cause absolument incontestable de surpoids, d'inflammation, de perturbation de l'appétit, du comportement alimentaire. Donc, on voit combien c'est important, hein, sachant que près de la moitié des gens dans nos sociétés occidentales n'ont pas un sommeil optimal. Un tiers ont des insomnies, des sommeils trop courts. Bon, les ados ont perdu en une génération 2 heures de sommeil. Hein, ils sont sur les écrans, avec la lumière bleue envoyé par les écrans qui va écraser la mélatonine dans l'œil, qui va dans la glande pinéale. Ça va altérer la qualité du sommeil et tout ça est un facteur majeur de surpoids.
On parlait de surconsommation de viande et que ça a augmenté d'ailleurs ces dernières années. On parlait aussi des produits ultra transformés qui ont augmenté. On a aussi mentionné dans quelques fois que l'alimentation n'apporte quand même pas assez de nutriments. Donc si en plus ce n'est pas apporté ni par les produits qu'on consomme ni par l'alimentation, est-ce que on est plus sujet à des carences aussi quand on... J'arrive
oui.
pas à faire ma question.
Oui,
mais...
j'ai compris ta question. Oui. En fait, tout à fait, tu as raison, Noémie. C'est que non seulement l'industrie agroalimentaire fait des produits ultra transformés qui ne sont pas bons pour la santé parce que trop caloriques, trop de sel, trop de sucre, trop d'additifs, trop de graisse saturée, etc. Mais en plus, ils sont extrêmement appauvris en vitamines, en minéraux. Extrêmement. Hein, c'est-à-dire que, paradoxalement, dans nos sociétés d'abondance où il y a trop, eh bien, il n'y a pas assez d'apports vitaminiques et minéraux. Et pour certains, c'est vraiment dramatique. Quoi. Bon, certains, c'est impossible. Par exemple, la vitamine D, il y en a très peu dans l'alimentation. Mmh. On la fait surtout au soleil l'hiver. Mais l'hiver, il n'y a plus de rayons ultraviolets suffisants pour faire la vitamine D au soleil. Donc forcément, on comprend pourquoi on est forcément obligé de prendre des compléments l'hiver de vitamine D. Mais on découvre en fait que... on est dans une situation de malnutrition toxique dans nos pays d'abondance. C'est étonnant. Donc, par exemple, on manque de magnésium, qui est indispensable pour transformer les calories en énergie. Hein, toutes les étapes de transformation de toute calorie en ATP, c'est l'énergie, sont magnésio-dépendantes. Or, l'apport en magnésium moyen est de 200 mg par jour. L'apport recommandé pour ne pas faire de carence est autour de 400 et l'apport optimal est entre 600 et 900. Alors, tu vois un peu le truc, le gap. Ouais. Donc, ça aussi, ça joue un rôle qui était très étonnant, hein, c'est-à-dire contre-intuitif. Moi, j'étais complètement stupéfié. J'étais au Japon dans un congrès et il y a eu une journée entière là-dessus, sur le fait que le déficit en magnésium était un facteur majeur de surpoids. Et alors là, tout le monde tombait des nues parce que jamais on avait réfléchi à ça avant. Et ça s'explique donc par ce fait... c'est que si tu manques de magnésium, tu ne vas pas transformer tes calories en énergie. Qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles font des triglycérides qui vont se stocker dans le tissu adipeux. Plus le fait que le magnésium est un régulateur du stress. Donc, quand tu es stressé, ben, tu manges plus, souvent sucré. Hein. C'est le problème de la sérotonine. On n'en a pas tellement parlé, mais bon, ça fait partie de reprendre le volant. Hein. C'est un neurotransmetteur qui contrôle les pulsions. Ça fait partie de reprendre le volant. Donc, on donne évidemment... tout un protocole pour améliorer son frein des pulsions, hein, reprendre le volant. Et aussi, le magnésium est nécessaire pour l'inflammation, hein, parce qu'il calme les globules blancs. On a vu que les globules blancs jouent un rôle important, hein, par exemple en détricotant le muscle. Donc le magnésium calme ça. Donc c'est multifactoriel. Mmh. D'accord. Mais on peut prendre l'exemple du zinc. Hein, pour faire du muscle, il faut du zinc, parce qu'on ne peut pas faire de protéines sans zinc. Or, on regarde les études de santé publique, 80% de la population manque de zinc, il est de moins en moins bien absorbé avec l'âge, et après 60 ans, c'est 100% des gens non complémentés qui manquent de zinc. Donc, comment veux-tu faire du muscle si tu manques de zinc? D'accord. Voilà, tous ces problèmes se combinent. Et l'erreur qu'on a faite, je pense, c'est bon, l'humain, hein. C'est-à-dire qu'on cherche la magic bullet, le truc simple qui va tout résoudre, quoi. Hein, c'est pour ça qu'on est passé par les hormones thyroïdiennes, qui ont tué des gens, bon, maintenant c'est interdit évidemment, après l'isoméride qui a tué des gens, mais on avait laissé le médiateur qui est son cousin, on a vu le résultat, hein, des milliers de morts et le procès du labo Servier. Bon, maintenant c'est l'Ozempic, la chirurgie bariatrique. Chaque année, c'est une bêtise nouvelle. Bon, on a eu le régime cétogène, qui est complètement aberrant, parce que c'est bourré de graisse, au bout de 3 semaines, tu commences à faire de la stéatose hépatique, du foie gras. Bon, toutes ces aberrations, c'est parce qu'on cherche à une solution simple. Mais il n'y a pas de solution simple, il faut le dire. Et c'est pour ça que c'est une approche globale, multidimensionnelle, et que c'est à vie qu'on va faire progressivement mieux. On peut toujours faire mieux. Hein. C'est ce que disent les nonagénaires d'Okinawa. Voilà, à 90 ans, on peut toujours faire mieux.
Parce que On voit, par exemple, au Japon, c'est les champions du monde pratiquement contre l'obésité avec juste 5% de la population.
Voilà.
Tu disais qu'Okinawa, ce n'est pas forcément représentatif du Japon, mais il y a quand même peut-être des choses à apprendre là-bas.
Tout à fait, oui. Les Okinawiens font mieux que les Japonais du Nord.
Mm-hmm.
Ce n'est pas la même ethnie, mais ce n'est pas la même culture non plus. Mais depuis 2000 ans, au moins, hein, parce qu'on a des stèles, ils ont cette recherche de santé par l'alimentation, on ne sait pas d'où ça vient. On a des études maintenant très poussées sur des milliers de centenaires là-bas, sur ce qu'ils mangent, sur tous leurs paramètres biologiques, etc. Mais bon, ils ont fait des choix extrêmement intéressants pour nous, hein, pas parfaits, mais bon, le thé vert évidemment, mais qui n'est pas très spécifique, c'est un peu toute l'Asie. Mais le curcuma, par exemple, ils faisaient leur fortune, c'était un royaume, le royaume des Ryukyu, en important les épices des Indes vers le reste de l'Asie. Donc, ils ont adopté le curcuma. Le curcuma, comme on le sait, c'est très anti-inflammatoire. Ils en mettent même dans leur thé vert. Bon. Donc, il y a tout cet ensemble d'habitudes qui m'avait fasciné, hein, parce que bon, c'est le pays qui a la longévité en bonne santé, la meilleure au monde, et en effet, un taux de surpoids et de diabète très faible. Mais, et alors là, il y a la surprise au tournant, c'est que aujourd'hui, c'est Okinawa qui a le plus fort taux d'obésité et de diabète de toutes les préfectures japonaises.
Ah merde.
Grâce à l'armée américaine.
Ah.
Ah oui, parce que suite à la guerre du Pacifique, hein, qui était terrible à Okinawa, c'est les États-Unis qui ont géré, l'armée américaine qui a géré les îles d'Okinawa. Ils ont introduit, évidemment, les pétales de maïs au petit-déjeuner, les produits laitiers, les fast-food et tout ce que tu veux. Et la nouvelle génération qui ne veut pas faire comme les anciens, ils ont fait ça. Et le résultat, le voilà. Alors, évidemment, quand on a sorti les études d'Okinawa, il y a eu plein de sceptiques. On dit, oui, mais c'est génétique, c'est une petite île et tout. Oui, mais avec les mêmes gènes, la nouvelle génération, eh ben, elle a l'inverse. Et on constate exactement le même phénomène en Crète. En Crète, qui était le meilleur modèle méditerranéen en Europe, eh bien, ils ont exactement le même phénomène avec les mêmes gènes. Et je vais prendre un autre exemple, hein, c'est qu'à Okinawa, il y avait beaucoup de pauvres. Donc, il y a eu 300 000 Okinawaïens qui sont partis au Brésil. Eh bien, ils ont perdu 19 ans d'espérance de vie et ils bouffent autant de médicaments que les Brésiliens. Voilà. Donc, c'est avec les mêmes gènes, voilà, c'est clair.
Donc, comme quoi, il n'y a pas vraiment de recette miracle aujourd'hui.
Alors, ce n'est pas des recettes miracles, mais je pense qu'on a fait des avancées considérables dans la compréhension et aussi dans les outils. Hein, par exemple, je décris dans le livre de nouveaux outils comme les xanthones de mangoustan, le jiaogulan,
J'allais en parler,
ah,
justement.
Bon, d'accord.
C'était ma prochaine question,
bon,
mais
au moins,
on est sur la même longueur d'onde.
Je te précède.
Oui, il y avait le resveratrol aussi que tu n'as pas cité.
Tout à fait, le resveratrol qui marche bien avec le mangoustan.
D'ailleurs, en fait, on a tout ça chez Sunday.
D'accord.
Et on a aussi le jiaogulan chez Yoshien, qui parfois aussi appelé le thé des centenaires.
Tout à fait.
Et donc, c'est quoi, du coup, ces avancées que tu voulais me dire?
Il s'avère que tout fonctionne avec les études.
Ouais.
S'il n'y a pas d'études, on ne peut rien faire. Il y a beaucoup de gens qui ont des opinions, mais non, une opinion sans études, ça ne vaut rien. Voilà, la preuve. Bon. Donc, il faut des études, et les études montrent que ces principes actifs, hein, les xanthones du mangoustan ou le jiaogulan, réduisent l'accumulation de graisse dans le foie, dans le tissu adipeux, ont des effets puissamment anti-inflammatoires. Il y a plusieurs mécanismes qui se combinent pour avoir un... C'est des choses dont on ne disposait pas avant.
Tu parles aussi de la Q10, de l'astaxanthine, de la berbérine comme des jokers.
Tout à fait. Alors, tout simplement parce que l'astaxanthine, par exemple, qui est un caroténoïde, bon, tout le monde connaît le bêta-carotène orange de la carotte, du melon, de l'abricot. Un peu moins le rouge de la tomate ou du poivron, c'est le lycopène, mais qui est très intéressant aussi, par exemple, pour le cancer de la prostate. Mais il y a d'autres caroténoïdes, il y en a beaucoup d'autres, dont cette astaxanthine. Vous le connaissez par le saumon, hein, parce qu'on recolore les saumons grâce à ce caroténoïde. Mais l'intérêt de cette astaxanthine, c'est que c'est un stimulant de la multiplication des centrales énergétiques, les mitochondries. Donc ça, c'est clé. Parce que plus tu as deux centrales énergétiques, plus tu divises le travail et plus tu es capable de transformer les calories en énergie au lieu de faire des triglycérides qui vont aller dans le tissu adipeux. Voilà, c'est assez simple. On a comme ça plusieurs principes actifs, aussi des polyphénols d'huile d'olive, hydroxytyrosol, qui font ça. C'est pour ça que si tout ce que je propose dans le livre, ce n'est pas à faire d'un coup. C'est très progressif. Et puis, si ça ne marche pas, on a sous le coude des moyens supplémentaires. Donc, on ne va pas d'emblée, en première intention, sauf cas, par exemple, très grave d'obésité morbide ou d'obésité, etc. Évidemment, plus le cas est grave au départ, plus on va être obligé d'être musclé. Bon, ça, c'est clair. Mais sinon, on commence mollo et on amplifie. Et en fonction des besoins, on a un certain nombre d'outils, un éventail d'outils pour renforcer les protocoles.
Ben justement, c'était ma dernière question. Du coup, c'est quelles sont les étapes pour reprendre son poids et sa santé en main? On commence par des analyses ou un engagement personnel ou bien des mesures alimentaires dans tous les cas ou une supplémentation? Ou c'est quoi les étapes, l'ordre?
Ni l'un ni l'autre. Bon, la première, c'est la motivation. Bon, faut bien comprendre une chose, c'est que sans motivation, c'est pas la peine. C'est-à-dire que il faut avoir une raison majeure de rentrer dans ce protocole. Il faut avoir des raisons d'avoir envie d'être de bonne santé. Bon, par exemple, moi, j'ai envie de vivre longtemps parce que j'ai envie de voyager. Bon, c'est une motivation, d'accord. Donc, ça me motive pour suivre un protocole de ralentissement du vieillissement, bon, par exemple. Mais donc, beaucoup de gens ont envie. On a fait, par exemple, en début de cette année 2025, une enquête auprès des Français pour savoir quelles étaient leurs intentions, l'intention la plus importante, d'accord. Et étonnamment, perdre du poids est arrivé presque en tête de toutes les intentions. Bon, formidable. Mais le problème, c'est il y a l'intention et puis voilà. Après, c'est tout ce problème d'inconscient qui est essentiel. Donc, on va commencer forcément par le mental, forcément. C'est reprendre le volant, c'est la première mesure indispensable parce que tous les autres conseils vont pas être suivis si on n'a pas repris le volant.
En tout cas, on va pouvoir trouver tous tes autres conseils dans ton livre qui vient de sortir vraiment il n'y a pas longtemps. Dans chaque épisode, je termine avec un petit jeu. Et en ce moment, sur TikTok, j'ai vu plein de chirurgiens esthétiques qui mettent des notes à des habitudes ou des choses qu'on promeut parfois. Et donc, j'aimerais bien que tu notes de 1 à 10 ces habitudes qu'on retrouve pour la perte de poids. J'ai ma petite liste, est-ce que tu es prêt?
Oui, alors 10 c'est bon et 1 c'est mauvais.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Alors, manger plus de protéines.
Voilà, on en a déjà trop. Selon l'OMS, c'est bien publié, on mange deux fois trop de protéines déjà.
On entend de plus en plus parler du vinaigre du cidre le matin.
Ah, oui, alors là c'est la déesse du sucre. Jessica, c'est la fameuse. Bon. Mais là, c'est purement, le genre de truc fantasmatique. C'est vrai qu'il y a un petit effet de ralentissement, de montée de la glycémie avec le vinaigre, mais c'est extrêmement marginal. C'est pas avec ça qu'on va changer la donne. Certainement pas. Donc c'est abusif. C'est deux, si on veut.
Faire du cardio tous les jours.
Ah oui, ça, on est pour. Alors,
le cardio
9, 10, oui.
Peut y aller à volonté.
Oui, à partir du moment où il n'y a pas de contre-indication, faire du cardio. Dans l'activité physique, c'est toutes les dimensions qui comptent. C'est la musculation, c'est le cardio, c'est la flexibilité, c'est la coordination, c'est la réactivité. C'est intéressant d'être en forme sur toutes les dimensions.
Donc un 10. Éviter les produits transformés du supermarché.
10.
Consommer des végétaux, légumineuses, céréales complètes et fibres.
10.
Privilégier les glucides lents ou sucres rapides.
Ah ben, la glucide lent, forcément, oui. 10.
Ne pas manger trop épicé.
Ah non, on peut manger très épicé. Le problème, c'est l'huile épice, c'est le sel et le sucre, en fait. On l'a vu. Donc, comment faire? On peut sucrer avec une banane écrasée, avec des petits morceaux de dattes, de figues sèches, de raisins secs. Il y a des tas de façons de sucrer. Ou mettre de la cannelle, de la poudre d'écorce d'orange. Il y a des tas de façons d'aromatiser les desserts. Et pour le salé, de mettre, ce que je conseille fortement, ça c'est un truc simple à faire, c'est d'acheter en boutique bio, parce que c'est des racines forcément très polluées, c'est du gingembre et du curcuma. Mmh. On fait moitié-moitié, gingembre-curcuma. Encore mieux, rajouter un peu de clou de girofle, qui, alors ça a un goût très fort, on ne peut pas en mettre beaucoup, hein, qui est très très anti-inflammatoire. Et du coup, ça remplace le sel. Et c'est épicé, mais c'est anti-inflammatoire. Ça fait l'effet inverse du sel. Mmh. Ça fait partie des mesures très importantes qu'on préconise.
Éviter tout produit gras, sauf ceux riches en oméga-3.
Alors, c'est bien, ça ? Non, ça, c'est un peu exagéré. Non, parce que, par exemple, l'huile d'olive, il n'y a pas d'oméga-3 dans l'huile d'olive. Mmh. Or, c'est des acides gras mono-insaturés qui remplacent avantageusement les graisses saturées. Ça contient des polyphénols. On n'a pas besoin de manger que des oméga-3. Mmh. Les oméga-3 manquent dans la majeure partie de la population, sont hyper intéressants parce qu'ils se brûlent facilement, ils sont anti-inflammatoires, ils favorisent la circulation, la communication entre les cellules, ils sont antidépresseurs. Enfin bon, on a des tas de raisons d'augmenter les oméga-3. Et là, on peut faire une huile. Hein, je donne la recette simple, c'est 2/3 d'huile de lin hein, qui est riche en oméga-3, 1/3 d'huile d'olive, mais en bouteille de verre, hein, à garder au frigo, à ne pas cuire parce que les oméga-3 ne supportent pas la chaleur. Mm-hmm. Mais il y a évidemment la place... pour des graisses monoinsaturées, pour un petit peu d'oméga 6. Bon, c'est inflammatoire, mais voilà, on en consomme trop. C'est clair. Mais c'est une rééquilibration, on va dire, des graisses, mais toutes les graisses ont un intérêt quelconque, même un peu de saturé. Les saturés, ils servent d'isolant thermique. Hein. Si on mange aucun graisse saturé, on peut devenir frileux. Mais bon, ça ne va pas être le problème des gens surpoids, je pense.
Consommer des produits 0% calories.
Zéro. Enfin, moins 1. moins 1. Non, ça ne marche pas du tout. Il y a un compteur de calories dans le cerveau, à l'hypothalamus. Et donc, on mange plus de produits à 0 calories. Donc, l'industrie est contente, mais le patient, non. Ça ne marche pas de toute façon. Là, ça a été liquidé, je pense. Ça a quasiment disparu des rayons. Tout le monde sait que ça ne marche pas.
Faire une cure de figuier de barbarie.
Alors là, je n'ai pas de réponse. Il faut des études. Moi, je ne peux pas parler sans études.
Augmenter ses apports en polyphénol.
Ah oui, alors ça, c'est sûr.
Pour la perte de poids.
Alors oui, les polyphénols, c'est en fait des pigments. Hein, par exemple, dans le curcuma, dans le thé vert, dans le chocolat noir. Bon, ce sont des molécules utilisées par les plantes pour se défendre contre tout stress. Donc, comme on partage 35% de gènes avec les plantes, quand on mange ça, ça stimule tous ces systèmes. Hein, donc, c'est en fait une sorte de système SOS de résistance à tous les stress. C'est vraiment intéressant. En plus, les polyphénols sont très puissamment anti-inflammatoires. D'accord ? Ils bloquent le fer et le cuivre, qui sont des pro-inflammatoires. Ils ont énormément d'avantages. Ils stimulent toutes les réparations, donc la nuit en particulier, puisque c'est le moment où on a l'énergie pour le faire. Et alors là, les polyphénols, on peut y aller. Bon, évidemment, si on surdosait considérablement en polyphénols, on pourrait avoir un peu de constipation. Bon, ben, ça, c'est pas méchant.
Le thé vert pour perdre de poids.
Justement, le thé vert, c'est une très bonne source.
Donc 10.
Le thé vert, c'est bien documenté, riche en polyphénols et encore plus puissant, le thé vert matcha. Une petite poudre qui est très concentrée, qu'on peut mettre dans n'importe quelle sauce, soupe, etc. Ça va être une très bonne source de polyphénol.
Réduire ses portions.
Alors, réduire ses portions, c'est l'ancienne posture, ça. Manger moins, vous allez maigrir. Mais il n'y a pas de mystère. Hein. Si on veut perdre 1 kg de graisse, c'est 9000 calories, on a dit. 9 calories par gramme. Bon, pas tout à fait. Hein, parce qu'il y a un petit peu d'eau dans le tissu adipeux, donc il y a 8000 calories. Si vous ne perdez pas 8000 calories, soit parce que vous ne les consommez pas, soit parce que vous les brûlez, vous ne perdrez pas le kilo. Ça reste valable. Quand on fait donc une restriction, on réduit ses calories, il y a le compteur, hein, l'hypothalamus, comme dans les produits zéro calories, et puis il faut perdre, il faut perdre 8000 calories. Pour perdre 1 kg de masse grasse, ça reste valable, mais ça va ne marcher que si on le fait très progressivement et définitivement. Okay. Donc c'est plus la qualité du rapport à l'alimentation, c'est aussi le timing, hein, on a dit, pas trop manger le soir, c'est évidemment la qualité de ce qu'on mange qui est très importante. Plus vous mettez de végétaux dans l'assiette, déjà c'est déjà une très très bonne orientation. D'accord. Plus d'être de produits ultra transformés, c'est beaucoup plus important que la portion. Il ne faut pas s'obséder sur les calories.
Okay.
C'est un vieux piège dans lequel la diététique s'est empêtrée. Compter les calories, si ça avait marché, il y a longtemps qu'on le saurait.
Oui. Manger des glucides lents au dîner.
Oui, tout à fait. Parce que les glucides lents, je dirais 10, parce que les glucides lents ont un effet sédatif, en particulier sur la sérotonine. Ça va favoriser le sommeil et ça va donner une énergie long terme. On va stocker du glycogène dans le foie, dans les muscles, et ça va donner de l'énergie pour le lendemain. Et même, on préconise au-delà de ça un jeûne intermittent, c'est-à-dire de manger léger, végétarien, glucidique le soir, de sauter le petit déjeuner pour ménager une plage sans manger de 12 à 13 heures. Progressivement, on gagne jusqu'à 16 heures, c'est l'optimum, la formule 8-16. Alors, cette formule-là, attention, est contre-indiquée pour la femme enceinte qui ne doit pas sauter de repas, parce que la glycémie doit rester stable pour le cerveau du bébé. Chez les enfants, forte croissance, l'ado qui grandit vite, le senior dénutri, bon, non. Mais tous les autres peuvent bénéficier de cette mesure qui est très, très utile. Ça ralentit le vieillissement, ça réduit l'inflammation, ça réduit un truc qui s'appelle la glycation, hein, qui est le collage de sucre sur les protéines qui les bloquent. On a maintenant plein d'études qui montrent que ça réduit le risque de cancer, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on peut préconiser, mais il y a des contre-indications.
Arrêter l'alcool et le tabac pour perdre du poids.
Alors, c'est deux choses très différentes, parce que le tabac peut favoriser une certaine stabilité du poids. Et d'ailleurs, c'est un prétexte pour lequel les gens s'arrêtent pas de fumer. Ils disent, oui, si j'arrête, je vais grossir. Pourquoi ? Parce que les drogues sont interchangeables. Qu'est-ce que fait le tabac ? C'est pas seulement de la nicotine, ça augmente la sérotonine, le frein des pulsions. Donc c'est un sédatif. Okay. Si on ne tient pas compte de ça, le fumeur va manger plus sucré ou boire justement de l'alcool. Et d'ailleurs, beaucoup de gens tabagiques sont alcoolo-tabagiques parce que c'est en fait la même drogue. L'alcool est une sorte de super sucre. Et le sucre, il envoie les compétiteurs d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophane, qui doit passer dans le cerveau par un portillon en compétition avec d'autres acides aminés. Donc, s'il y a beaucoup de compétiteurs, ils ne rentrent pas dans le cerveau. Et on a, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut manger moins de viande. C'est que ça va rendre plus agressif. On va moins se contrôler. Plus on mange la viande, plus on va avoir un problème de sérotonine et de contrôle de soi. On va avoir du mal à reprendre le volant. D'accord ? Donc, ça explique pourquoi on donne ces conseils.
Du coup, on peut arrêter, mais pas forcément.
Alors, l'alcool et le tabac. Oui, je n'ai pas bien répondu à ta question. Donc, l'alcool et le tabac sont différents quand même pour deux raisons. C'est que donc, le tabac a tendance à faire maigrir et l'alcool à faire grossir. Parce que l'alcool, c'est aussi donc, très calorique. Okay. Donc, ce n'est pas du tout le même problème. Par ailleurs, l'alcool fait une vasodilatation au niveau du tube digestif. Donc, ça va aggraver fortement la dysbiose et l'inflammation qui vient du tube digestif. Donc, c'est quand même recommandé, surtout en début de traitement, de ne pas du tout boire d'alcool. Voilà. Le tabac, de toute façon, c'est une autre question. Le tabac, c'est vous fumez une cigarette, c'est 20 minutes de vie en moins. C'est simple. Donc là, de toute façon, il n'y a aucune justification au tabac. L'alcool, si on n'est pas en traitement, si on n'a pas d'intolérance alimentaire, etc., si on n'est pas psychotique, enceinte, etc., tout le monde connaît les contre-indications, on peut boire un peu de vin rouge, c'est plutôt bon pour la santé selon les études, mais probablement pas en début de traitement contre le surpoids.
Travailler sur son image de soi.
Oui, bien sûr. Alors là, on a des études qui montrent que les gens ne se rendent même pas compte la majeure partie du temps. On a des études aberrantes. On voit qu'il y a une toute petite minorité de gens qui connaissent vraiment leur surpoids. Il y a une négation, ou même les parents par rapport à leurs enfants ne voient pas qu'ils soient en surpoids. Donc pour eux, c'est normal. Alors après, il y a pire. C'est body positive. C'est le mouvement, vous savez, où on dit finalement, être gros, c'est pas grave, c'est bien. Finalement, il y a plus de gens surpoids que de gens pas en surpoids. Donc, voilà. Mais le problème, c'est que ça n'empêche pas toutes les complications et tous les problèmes associés au surpoids.
Faire 10 000 pas par jour.
Oui, ça, l'activité physique est fondamentale. C'est 10 000 pas, mais c'est pas...
Et ça fait maigrir.
Pas seulement. Alors, ça contribue, mais c'est l'ensemble. Si vous faites 10 000 pas et que vous avez manqué de zinc, vous n'allez pas faire de muscles. Donc, à quoi ça sert ? Donc, il faut vraiment un ensemble pour avoir les résultats. Mais l'activité physique est fondamentale.
Donc 10, toujours. Aller au sauna.
Pourquoi pas ? Le sauna, ça contribue à détoxifier par la sueur. Bon, pourquoi pas ? C'est détendant, c'est un petit outil.
Se supplémenter en vitamine D.
Absolument, indispensable. Ben, je dirais 10 parce que la vitamine D est aussi anti-inflammatoire. Elle est connue pour l'absorption du calcium, mais elle est aussi anti-inflammatoire. C'est comme une hormone presque. Maintenant, tout le monde est plus ou moins au courant. Mais on oublie parfois sa cousine, la vitamine K, qui a pratiquement les mêmes propriétés.
Et la dernière, c'est faire des exercices de respiration.
Alors, faire des exercices de respiration, c'est toujours utile. D'abord, c'est un très bon outil anti-stress. La méditation, la relaxation, la sophrologie, l'accouchement sans douleur, tout ce qu'on veut. La respiration est un outil absolument fondamental. Bon. Et par ailleurs, ça augmente l'oxygénation. Et l'oxygène, il sert surtout à brûler les calories. Donc, bien respirer, c'est important.
On est arrivé au bout de mes questions.
Et ben voilà.
Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces détails. On est vraiment allé dans plein de sujets différents. Je tiens à préciser quand même que tous les conseils qui ont été mentionnés ici ne remplacent pas le suivi par votre médecin, naturopathe, nutritionniste, diététicien ou diététicienne. Alors, n'oubliez pas de consulter votre professionnel de santé avant tout grand changement et surtout de supplémentation. Vous pouvez retrouver le livre « Mais d'où viennent ces kilos ?» aux éditions Le Duc en librairie ou sur Internet. Je listerai également les autres livres qu'on a mentionnés en description. Merci encore d'être venu ici à Berlin.
Encore merci Noémie et puis bonne route à tous. J'espère que ces petits conseils vous aideront à long terme.
En tout cas, je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, des commentaires et on se retrouve pour le prochain épisode. Au revoir.